7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 14 janvier 2011, la révolution tunisienne provoquait la chute et le départ en exil du président Zine El Abidine Ben Ali au pouvoir depuis 24 ans. Un séisme dans le monde arabe qui allait entraîner une série de répliques ou faire souffler le vent de la contestation dans une vingtaine de pays: Égypte, Bahreïn, Jordanie, Syrie, Libye, Yémen, Maroc, Algérie ou encore Irak, Soudan, Liban. En l'espace de deux ans, 2011-2012, trois autres dictateurs seront balayés: Hosni Moubarak, Muammar Kadhafi et Ali Abdallah Saleh. Dix ans après le début des printemps arabes, les maux qui avaient poussé les populations dans la rue, chômage, précarité, corruption, disparité, injustice, mauvaise gouvernance, sont toujours présents quand ils n'ont pas été aggravés par la guerre, le chaos ou la répression. Alors que reste-t-il de ces soulèvements populaires et des espoirs de changement? Quel impact ont-ils eu sur la société civile? Qu'est-ce qui a changé au quotidien? La démocratie reste-t-elle une utopie? Peut-on parler d'exception tunisienne? Quel rôle jouent les sociétés civiles dans la lutte pour le droit des citoyens à la dignité? Quelle est leur place dans le paysage qui a émergé des printemps arabes? On va prendre avec nos invités l'exemple de trois pays du Maghreb: la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41 par WhatsApp.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Martin Péricard, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes chef de projet à l'AFD, l'Agence française de développement, et vous co-signez avec Emmanuel Matedi et Fatima Shahid « La face cachée des sociétés civiles au Maghreb » aux éditions de l'Aube. Pourquoi ce terme « face cachée » ? Est-ce que, qu'avez-vous essayé de révéler sur les sociétés civiles au Maghreb, en l'occurrence celles des trois pays que je viens de citer, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ?
Alors, quand on parle de la Méditerranée et des rives sud de cette Méditerranée, et encore plus précisément du Maghreb, on est souvent confronté à des analyses qui portent sur des crises. Alors, crise démocratique, crise sociale, crise économique, crise écologique, crise migratoire. Et nous avions, en tant que praticiens et chercheurs, envie de montrer la face cachée des sociétés civiles qui est souvent porteuse de changement, qui est souvent porteuse de dynamique de développement, et nous trouvions que nous en parlions trop peu ou pas assez. Alors peut-être un mot sur comment nous nous y sommes pris, parce que cette thématique est très large, et nous avons travaillé en équipe. Donc vous avez cité Emmanuel Matedi et Fatima Shahid, les co-auteurs, mais nous avons aussi mobilisé de l'argent, parce que ça coûte de l'argent de faire une recherche, et donc l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations nous ont permis de réaliser ce travail. Et puis, pour finir, tous les gens qui se sont mobilisés, qui nous ont reçus, dont les personnes qui vont témoigner. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et je remercie tous les gens qui se sont mobilisés pour ce travail.
Est-ce que les printemps arabes, enfin ce qu'on a appelé les printemps arabes, ont fait émerger une nouvelle société civile ?
Oui et non. En fait, la société civile, elle remonte à la colonisation française, à l'idée d'association. Mais des solidarités, on en trouve de façon antérieure. Hein, dans les cultures, dans ces pays-là, les solidarités ont toujours existé. Et c'est vrai que ce qui fait la base de ces sociétés civiles, c'est quand même cette notion d'entraide, de mobilisation, de plaidoyer pour des droits humains.
Mais aujourd'hui, l'impact qu'ont eu les printemps arabes, ces soulèvements populaires, ces révoltes ou révolutions, hein, on peut changer de mot selon les pays peut-être, en quoi ça a changé cette mosaïque d'acteurs qui composent la société civile?
Alors ça a changé, on voit l'exemple de la Tunisie, hein, c'est formidable sur le droit des femmes, sur les avancées démocratiques, même si c'est toujours compliqué, s'il y a des tensions. tout à l'heure, on parlait de crise, il y a aussi la crise sécuritaire avec les attentats. Alors après, au Maroc, c'est une société civile qui est ancrée de longue date, avec des rapports avec le pouvoir qui se négocient. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que le Maroc, suite au soulèvement des Irakiens, n'a pas bougé. Mais il y a eu quand même un dialogue avec le roi qui a permis des changements. En Algérie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On voit bien qu'il y a un contrôle très fort du régime FLN. Plus globalement, ça, on pourrait les qualifier d'automne arabe. Il y a aussi des hivers arabes, vous en avez parlé, en Libye, en Syrie, en Égypte, au Koweït, au Yémen. On peut se dire que c'est contrasté.
Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que ces révoltes, ces soulèvements ont échoué, sauf en Tunisie, ou est-ce que malgré tout, les mobilisations de la rue ont prouvé qu'aucun dirigeant, même un dictateur, n'était désormais inamovible, que tout était possible?
Je pense que vous avez raison. Regardons en Algérie, il y a 20 millions d'Algériens qui ont manifesté dans la rue. Il faut se rendre compte de cette mobilisation. Hein. En France,
depuis février 2019, voilà. Quand le Irak est voilà. Né, donc ce mouvement de contestation inédit qui s'est organisé par les réseaux sociaux.
Tout à fait. 20 millions de personnes dans la rue. C'est comme si
chaque
en France,
vendredi,
30 millions de personnes manifestaient. C'est d'une ampleur absolument incroyable. Et personne ne pensait qu'en Algérie, il était possible de faire tomber le régime en place. Cela a été fait.
Et donc, Bouteflika est parti.
Bouteflika voilà, et beaucoup de procès sont en cours par rapport à ce pouvoir qui semblait inamovible. Alors, ça n'empêche qu'il y a toujours le Irak qui continue et des dynamiques de développement en Algérie. On en parlera certainement plus tard dans votre émission. Mais il y a du changement suite à ces mobilisations, on ne peut pas le nier.
On va se pencher maintenant sur le cas de la Tunisie. Selim Karat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, président de l'ONG Al-Bawsala, la Boussole, un observatoire indépendant de la vie politique tunisienne. Quand votre ONG a-t-elle été créée et dans quel but ?
L'ONG a été créée en 2012, juste après l'élection de la Constituante, fin de l'année 2011. L'objectif était de lancer des observatoires de la vie politique, à la fois à l'échelle nationale en observant le Parlement, mais aussi à l'échelle locale, puisqu'on observe aussi les 350 conseils municipaux élus. Nous avons aussi un troisième observatoire des dépenses publiques.
Alors comment fonctionnent ces observatoires? Comment vous travaillez?
Nous travaillons en toute indépendance partisane et en toute liberté, il faut le dire. Hein. C'est l'un des principaux acquis de la révolution tunisienne, puisque on est sorti du régime, de l'ancien régime d'autorisation qui prévalait sous Ben Ali, à un régime assez permissif aujourd'hui, puisque toute Tunisienne ou tout Tunisien a le droit et la liberté de s'associer.
Mais est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez totalement libre ou est-ce que quand même vous restez vigilant? Est-ce que vous restez sur vos gardes?
La vigilance est de vigueur, parce que il est difficile de doter des vieux réflexes qui sont ancrés dans les pratiques du pouvoir depuis plus de 60 ans de dictature. Il nous arrive parfois de constater qu'il y a parfois des policiers en civil qui essaient de s'enquérir des activités des ONG, comportement de l'administration en fait qui ne facilite pas la création d'associations. Et donc le champ des libertés s'est vraiment élargi depuis la révolution, mais il y a quand même des risques et quelques dangers.
En fait, la démocratie pour vous, c'est un apprentissage?
Tout à fait. Et en Tunisie, on est sur une courbe d'apprentissage. C'est tout à fait vrai pour les politiques, mais aussi pour les acteurs de la société civile, notamment cette nouvelle société civile qui a émergé à la faveur de la révolution.
Et votre ONG, vous l'avez créée pour contribuer à cet apprentissage de la démocratie?
Oui, parce que notre mandat est de jouer un rôle d'intermédiaire entre la classe politique, les institutions et les citoyens de l'autre côté. Nous essayons de rendre publique, facile et gratuite l'information sur le travail politique et nous plaidons aussi pour ancrer les principes de transparence et de reddition des comptes dans la pratique de la politique en Tunisie.
Et est-ce que vous voyez des effets concrets à ce travail ?
Oui, un exemple pour illustrer ces effets, le Parlement qui, depuis 2014, a adopté quelques outils de transparence que nous avons nous-mêmes déployés depuis 2012. À titre d'exemple, le Parlement aujourd'hui live tweet les échanges au sein des commissions parlementaires ou en plénière. Ça, on le fait, nous, depuis 2012. Il publie aussi, sous notre pression et la pression d'autres acteurs de la société civile, de manière régulière la liste des députés qui sont présents, qui sont assidus par rapport à leur travail parlementaire. J'ai des dizaines d'exemples similaires.
Donc ça veut dire que grâce aux nouvelles technologies, grâce aux réseaux sociaux que vous utilisez, qui font partie de vos outils de travail, désormais les dirigeants, le pouvoir a des comptes à rendre et rend des comptes.
Oui, c'est grâce à ça. Alors ça, c'est un outil, mais c'est grâce surtout à la mobilisation des Tunisiens et à la pression que l'opinion publique fait sur les femmes et hommes politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on alerte, et puis ensuite, il y a derrière une véritable réponse de l'opinion publique qui exige des comptes aux responsables.
Alors, on parlait tout à l'heure du début de la révolution en Tunisie. Est-ce que cette révolution, pour vous, a réussi? Est-ce qu'il y aura toujours un avant et un après 2011?
Il y aura toujours un avant et un après 2011 parce qu'il y a des acquis sur lesquels il me semble très difficile de revenir, notamment la liberté d'expression, d'association, etc. Je pense notamment aux jeunes Tunisiennes et Tunisiens qui, en 2011, avaient 10 ans. Ils ont grandi dans un régime libre. Ils ne connaissent pas la chape de plomb qu'on a connue, que moi-même j'ai connue personnellement en grandissant en Tunisie dans les années 90. Je pense que cette nouvelle génération aura beaucoup de mal à renoncer à ces acquis-là. Et elle militera pour les sauvegarder. Alors rien n'est acquis, naturellement. Mais il y a aussi des évolutions au niveau institutionnel et légal, au niveau législatif aussi, qui nous offrent pas mal de garanties aujourd'hui.
Et donc, alors, allez-y.
Pardon. Il y a par contre pas mal de chemin à parcourir. C'est-à-dire que le processus de transition est continu. Et je pense personnellement qu'il est trop tôt pour tirer un bilan. La Tunisie a réussi sur pas mal de volets. Elle a échoué aussi sur d'autres.
Alors, par exemple, quels sont les domaines où l'on voit des stagnations ou même des régressions?
Écoutez, je pense que les dirigeants politiques qui se sont succédés depuis 10 ans ont failli en termes de réponse à la situation socio-économique de la majorité des Tunisiens. Il se trouve que le pouvoir d'achat a dégringolé et que l'instabilité politique, l'instabilité aussi sur le plan sécuritaire a généré une instabilité économique dont les conséquences se font ressentir de manière très forte aujourd'hui. Sur ce plan-là, je pense que nous n'avons pas réussi, et je pense que cela représente d'ailleurs le principal facteur de risque par rapport à cette transition démocratique.
Vous voulez dire qu'on pourrait assister à une seconde révolution tunisienne ?
Il est très fort probable qu'il y ait un deuxième soulèvement pour rappeler finalement les fondamentaux de cette révolution. Les gens, quand ils sont sortis dans la rue en janvier 2011, ils criaient dignité, travail et pain. Ils ne réclamaient pas forcément leur liberté d'expression et leur liberté d'association. Or, ce qui s'est passé depuis 2011, c'est que le focus a été mis sur les aspects civiques et politiques, notamment à travers le processus constitutionnel, aux dépens des chantiers et des réformes nécessaires pour changer le modèle économique en cours.
Voilà, la préoccupation principale des Tunisiens reste aujourd'hui avoir un emploi pour envisager une vie meilleure, tout simplement.
Absolument.
Et le nombre d'associations a doublé depuis la chute de Ben Ali en 2011. Il y en a aujourd'hui quelques 18 000. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ces associations se créent pour pallier, ce dont on parlait à l'instant, les absences ou les déficiences de l'État ?
J'ai envie de vous répondre oui à vos deux questions. C'est positif parce que cela traduit une certaine liberté chèrement acquise. Et aujourd'hui, l'explosion du nombre de nouvelles associations témoigne de cette vitalité civique. Alors, il faut souligner le fait que dans ces 20 000 associations, il y en a très peu qui sont réellement actives. Ensuite, comme pour la scène politique, les acteurs de la société civile sont aussi sur une courbe d'apprentissage. À titre d'exemple, il est rare d'identifier des associations qui ont pu développer un savoir-faire, une expertise, une spécialisation sur un petit volet d'intervention, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des associations tunisiennes se disent généralistes.
Est-ce que vous restez optimiste quand même, malgré ces bémols que vous venez d'apporter par rapport à l'évolution démocratique et économique de votre pays ?
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai quand même l'impression que les Tunisiens se préoccupent de la situation du pays, notamment la situation politique, et qu'ils ne sont pas prêts à un retour en arrière. Quand on entend les discours nostalgiques à l'ère d'avant la révolution, je suis pas certain que les Tunisiens sont nostalgiques par rapport au régime dictatorial. Ils sont davantage nostalgiques à une forme de stabilité sur le plan politique, économique, à une espèce d'ordre, à un cadre structurant et sécurisant. Et ça, c'est la meilleure garantie à mes yeux pour un non-retour en arrière. En Tunisie, nous avons aussi, malgré tous ces défauts, un processus de justice transitionnelle qui est enclenché, une instance vérité et dignité qui a rendu un rapport riche et détaillé sur les abus d'ancien régime. Nous attendons aujourd'hui que toutes ces recommandations du processus de justice transitionnelle soient traduites en réformes structurelles pour éviter un retour en arrière. Il y a donc pas mal d'indicateurs qui sont plutôt positifs par rapport à la poursuite de ce processus.
Merci beaucoup Selim Karat, politologue, président de l'ONG Al-Bawsala, d'avoir été en ligne avec nous de Tunis.
شوف الحاكم بالمتراك تاكا تاك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب في نسال ما تحاش فيه زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدام كفو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عباره واحد من صغارك يحكي معاك من السفرانس انا عايشين كل كلام باش ترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس تعذيب رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبله كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبله كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كان الكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام برطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاكا تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوج ظروف سارقات بالمكشوف بالخوره ملكوا البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس ومصحات بناءات وتعديلات لكن ولات الكلاب فلوس الشعب عباو القروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط
Raïs Lebled du rappeur El Général sur RFI. Ce morceau a servi de bande originale au soulèvement populaire en Tunisie. Raïs Lebled brosse un tableau noir de l'état du pays sous Ben Ali avec en boucle cette phrase « Monsieur le Président, votre peuple est en train de mourir ». Nous sommes toujours en compagnie de Martin Péricard, co-auteur du livre « La face cachée des sociétés civiles au Maghreb ». Pour ce livre, Martin Péricard, vous avez recensé de nombreuses initiatives dans le domaine des droit et de l'expression citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'expérience de démocratie participative de Sayada, cette petite ville de 12 000 habitants près de Sousse en Tunisie ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une formidable histoire. Hein. C'est un prof de mathématiques qui est élu après la chute de Ben Ali et qui, avec les habitants, 12 000 habitants, crée un processus de transition démocratique suite à un régime autoritaire. Et les initiatives prises sur la redevabilité, le fait que les personnes soient impliquées dans des micro-référendums, ont fait que, par exemple, des journalistes du monde entier sont venus voir ce qui se passait dans cette commune. Malheureusement, au bout de 4 ans, les autorités ont arrêté le processus et le maire a démissionné.
Le maire a démissionné parce que ses actions dérangeaient les autorités aussi bien sous les islamistes d'Ennahda que sous le RCD revenu au pouvoir
à partir de
2014.
La société civile est souvent dans un rapport de tension avec les autorités et son rôle est porter des changements. On l'a bien vu là en Tunisie avec cette expérience de la boussole qui est un incroyable travail de suivi parlementaire, exécutif et des communes. Et donc la société civile est souvent dans ce rapport avec les autorités tendues en fonction de chaque pays.
Alors direction Alger à présent, Fatiha Hamadash, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de projet et membre fondateur de SOS Culture Babelwed. Il faut d'abord préciser, oui. Fatiha, que cette association est née bien avant les printemps arabes, en 1995, pendant ce qu'on a appelé en Algérie la décennie noire. Comment vous est venue l'idée, l'envie de créer SOS Culture Babelwed?
Il y avait une urgence, au fait. Donc il fallait soit s'organiser, ou quitter le pays. Donc c'était un choix. Donc on a fait un choix au fait de s'organiser, de créer l'association. Et puis il y a eu cette possibilité de création de l'association après, bien sûr, après ce qui s'est passé le 5 octobre 88. Donc il y a eu l'ouverture au fait de création d'association.
Voilà,
donc,
le multipartisme.
On a tout de suite... Pardon ?
Oui, le multipartisme, les partis plusieurs partis ont eu le droit d'émerger.
Absolument. Parce qu'il faut dire qu'avant 1988, il y avait uniquement un parti unique. Donc,
le FLN.
Donc, voilà. Tout à fait, le FLN. Donc il fallait, comme je disais, il fallait s'organiser. Donc on a choisi donc le choix au fait du quartier Babelwed n'est pas anodin. C'était un quartier qui était touché par l'obscurantisme et l'islamisme. Donc il fallait au fait être sur le terrain. Il fallait donner la possibilité aussi à la population de s'organiser. Et donc on a fait au début c'était on avait commencé par création ou plutôt par organisation des concerts, c'était plutôt on a touché à la musique.
Ça c'était un acte de résistance par rapport face aux islamistes qui voulaient étouffer la culture, interdire la fête.
Absolument, tout était interdit, tout était péché. Donc pourquoi? Parce que la musique a distillé les mœurs, parce que la musique en fait c'est donner en fait la liberté, la vie, c'est la vie en quelque sorte. Donc c'est pour ça que nous avons commencé par création, par casser la peur, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de s'exprimer et de casser la peur pour nous dire que nous aussi nous existons, on est là sur le terrain.
Est-ce que la lutte contre l'endoctrinement dans les écoles reste aujourd'hui encore un de vos objectifs ?
L'endoctrinement, pas dans des écoles, parce que nous l'endoctrinement justement, l'objectif de l'association... c'est d'éviter les manipulations et les endoctrinements. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous, c'est pour ça que nous avons cet espace où nous donnons la possibilité aux enfants de venir, de fréquenter, au fait, l'association et de donner la possibilité aussi. Donc, il y a des cours de soutien et de parler. C'est-à-dire que c'est par des faits. Donc, nous utilisons tous les moyens d'expression, la peinture, la musique, le théâtre. C'est une façon d'ouvrir les esprits. C'est une façon aussi d'inculquer l'esprit de tolérance, quel que soit l'endoctrinement qu'il y avait. Donc maintenant, parce qu'il y a une prise de conscience des parents après ce qui s'est passé pendant les événements tragiques, pendant la décennie noire.
Mais aujourd'hui...
Il faut dire que... Oui. Pardon ?
Non, allez-y.
Parce qu'il faut dire que les parents, que les jeunes qui étaient les jeunes de 90, ils sont parents maintenant, vous voyez ? Donc l'endoctrinement, ce n'est plus comme avant, en quelque sorte, maintenant. L'idéologie persiste, mais à l'école, c'est moins...
Nous avons perdu Fatiha, on va essayer de la rappeler. Martin Péricard, comment vous expliquez qu'en 2011, hein, il n'y ait pas eu de contagion venue de la Tunisie voisine? L'Algérie n'a pas vécu de soulèvement massif de la population. Il a fallu attendre février 2019 et ce ras-le-bol par rapport à la perspective de voir le président Bouteflika postuler pour un cinquième mandat. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps avant que les Algériens descendent dans la rue, alors que les maux dont souffrent les Algériens sont finalement les mêmes que ceux dont souffraient et souffrent encore les Tunisiens ?
Alors, en Algérie, les personnes que vous rencontrez sur le terrain vous le disent, ils ont eu en 88 l'espoir que ça change, et puis ensuite il y a eu la décennie noire. Il faut se rendre compte que des Bataclans, ils en avaient tous les 2-3 jours. Donc c'était des situations où les gens sortaient de chez eux, ils ne savaient pas s'ils rentraient chez eux. C'était vraiment 10 ans d'obscurantisme, et à la sortie, ils n'avaient pas forcément envie de remettre une situation de tension avec l'État. Ce qui a fait que le mouvement s'est déclenché en Algérie, c'est la dignité. C'est-à-dire que les Algériens ne supportaient plus le fait que Bouteflika, qui était un homme malade, puisse faire en sorte qu'il soit réélu. Il y avait dans les manifestations des cadres vides. C'était une volonté de la population de dire « nous sommes dignes et nous refusons cette nouvelle élection ». Au Maroc, un mot, encore une fois, même si on pourrait penser de l'extérieur qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, il y a une vraie négociation avec le pouvoir pour qu'il y ait des changements sur l'expression de la société civile dans l'espace public.
Et est-ce que c'est plus que des réformes cosmétiques, comme le disent certains ?
Oui, parce que en fait, quand vous êtes dans l'analyse des sociétés civiles, on est sur comment les sociétés civiles peuvent ou non investir l'espace public, comment ou non ils peuvent s'exprimer. On voit par exemple qu'il y a des associations reconnues par les gouvernements, par les autorités, mais il y a aussi toute une série dans la santé, dans l'éducation, dans l'écologie, toute une série d'initiatives qui sont informelles. Parce que si elles sont formalisées, elles sont contrôlées et voire interdites par les gouvernements en place.
On a retrouvé Fatiha Hamadash de l'association SOS Culture Babel Oued. Fatiha, est-ce que les pouvoirs publics aujourd'hui vous aident ou est-ce que vous devez défendre vos projets auprès des bailleurs de fonds ?
Au fait, nous, notre priorité, au fait, donc même si il y a, ça dépend en fait c'est relationnel, ça dépend des personnes avec qui, c'est pas les pouvoirs publics, c'est pas les institutions en quelque sorte. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? On défend nos projets avec l'écriture de projets et la mobilisation des fonds avec nos familles, les opérateurs économiques, c'est-à-dire qu'on s'organise, voilà, on s'organise de façon que l'association poursuit au fait ses activités. Donc on n'attend pas que les pouvoirs publics, on est dynamique en quelque sorte, donc on bouge, on essaye. Nous, la plupart des projets sont financés par les bailleurs de fonds. Et voilà.
Fatiha, depuis le début du Hirak, on a vu le pouvoir algérien multiplier les arrestations de journalistes, de blogueurs. On a l'impression qu'une chape de plomb pèse à nouveau sur le pays. Est-ce que c'est aussi votre impression ou est-ce que le travail des associations comme la vôtre est plus difficile aujourd'hui ?
Ce n'est pas plus difficile parce que nous, en fait, il y a la confiance de la population. Nous, on travaille directement avec la population, vous voyez. Nous, c'est un projet de société. Nous essayons que les jeunes ne soient plus manipulables. On essaye de redonner, en fait, ou de garantir, de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Donc nous, en fait, en quelque sorte, on n'est pas qu'une association, c'est une association de proximité. On donne les moyens pour que les jeunes, les citoyens, puissent en fait trouver leur voie. Vous voyez ? Donc on n'est pas là pour dire qu'est-ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Tout en fait, tout, tout jeune doit prendre ses responsabilités en leur donnant les moyens de s'ouvrir. Voilà.
Merci beaucoup. Terminé, Fatiha.
Donc, si vous voulez, avec tout ce qui se passe, l'emprisonnement ou avec les détenus politiques, chacun, au fait, chaque jeune au niveau de l'association, il a son point de vue, vous voyez ? Chacun, c'est-à-dire que ce que nous essayons d'inculquer aux jeunes, c'est qu'ils puissent s'exprimer, quel que soit leur choix, sans violence.
Merci beaucoup Fatiha Hamadash d'avoir été en ligne avec nous d'Alger. Je rappelle que vous êtes chef de projet et membre fondateur de SOS Culture Bab El Oued. On va partir pour le Maroc à présent avec en ligne de Rabat Adnan Adiwi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. Alors je ne sais pas trop comment on prononce l'acronyme, je vous laisse faire.
C'est un
acronyme
en anglais, on
dit M-Size. D'accord. Donc c'est un incubateur et une ONG dédiée à la recherche de solutions innovantes et donc je le disais à la promotion de l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est l'entrepreneuriat social ?
Bien sûr, d'abord merci pour l'invitation et je pense que le contexte de ces 10 années va vraiment dans la question de l'entrepreneuriat social. Alors, comment peut-on définir cette idée ? C'est en gros, c'est de réfléchir de manière différente aux problématiques sociales, trouver des modèles économiques et impacts qui permettent de transformer en fait les problématiques en solutions. Et je veux dire, pour faire un lien direct avec ce qui se passe actuellement, c'est que les 10 dernières années ont vu une accélération de l'intérêt de toutes les parties prenantes par rapport au concept d'innovation sociale parce que ça parle d'inclusion économique, ça parle de redistribution de chaînes de pouvoir, ça parle d'amélioration de l'éducation. Donc en gros, c'est des méthodologies et des manières de réfléchir qui sont tant importantes pour la société civile que pour les acteurs économiques qu'encore pour les États.
Alors très concrètement, donc vous accompagnez des porteurs de projets, pas seulement au Maroc d'ailleurs, mais au Maghreb en général, des projets en lien avec l'éducation et la santé. Comment vous travaillez ? Comment vous détectez ces porteurs de projets ? Comment vous suscitez des vocations même ?
Alors, pour préciser, nous accompagnons des structures qui peuvent être publiques, associatives, entrepreneuriales, collectives territoriales. Donc, en gros, ça dépend vraiment des besoins. Nous faisons ce qu'on appelle de l'inspiration, c'est-à-dire de sortir d'un mindset de critique qui n'est pas constructive, mais plutôt vers une logique de formulation de solutions. Par exemple, on peut être dans un territoire où il y a une problématique d'accès à l'eau. Et donc, nous demandons littéralement aux gens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et donc, en général, c'est les populations qui identifient le besoin. Donc après, on les accompagne dans une logique de prototypage pour développer des solutions qui répondent à leurs besoins. Ça, c'est pour le cas, par exemple, d'un contexte pratique comme de l'eau. Aussi, des fois, c'est des entreprises qui ont des problématiques avec leur partie prenante, qui revendiquent des droits sociaux et d'autres. Si elles viennent nous voir, nous disent, comment est-ce qu'on peut discuter mieux et écouter et s'entendre mieux avec nos parties prenantes pour pouvoir développer et co-construire des solutions concrètes. Ça peut avoir lieu comme des entreprises, créer de l'emploi, ou des fois des process qui permettent au gouvernement, aux collectivités de parler plus, je dirais, ouvertement aux citoyens.
Mais je parlais tout à l'heure de susciter des vocations. Vous travaillez aussi avec les jeunes lycéens, je crois.
Oui. Alors, c'est les mêmes méthodologies, même avec les jeunes, les lycéens, les collégiens et autres. On travaille surtout sur leur passion, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez vous projeter dans le futur, et parce qu'on le sait très bien que la plupart des systèmes éducatifs dans le monde, en fait, ils n'arrivent pas à préparer les jeunes pour le futur. Donc la meilleure manière, en fait, c'est de poser la question de manière inverse, qu'est-ce que vous aimez faire, et de leur donner la possibilité, avec eux, leurs parents et leurs enseignants, en fait, de réfléchir aux besoins de la société. C'est pour ça que nos modèles est, je dirais, résilient au Covid, parce que ça se basait sur les besoins de la société, et en même temps, inverser un peu la chaîne, c'est-à-dire que c'est le jeune qui décide, non le parent ou encore le décideur.
Est-ce que les printemps arabes ont changé l'état d'esprit des ONG, d'après vous ?
Alors, je dirais oui, ça a changé pas juste l'état d'esprit des ONG. Beaucoup de gouvernements régionaux, nationaux, maintenant réfléchissent encore plus à la question des besoins de la population. Alors pour les ONG, ça a changé dans le sens où maintenant il y a peu de moyens, pas comme avant, et donc il faut se diriger beaucoup plus vers l'impact. Donc c'est pas juste le fait de dire on va faire des actions de solidarité et de charité, mais comment est-ce que j'ai pérennisé mon modèle d'impact, avoir durabilité et innover pour la réalisation de projets. En même temps, bah, pour les bailleurs de fonds, même ceux qui sont classiques, bah, aussi maintenant, bah, se rendent compte qu'il y a peu d'argent dans leur sens et qu'il faut qu'ils rendent compte à leur pourvoyeur de fonds. Pour les États, vu que maintenant la demande est encore, je dirais, plus explicite qu'avant, bah, en fait, il y a une oreille, je dirais, beaucoup plus attentive, et ça, on peut le voir sur tous les pays de la région.
Donc, pour vous, les initiatives doivent venir de la base, quitte à demander à être accompagnées, et c'est cet accompagnement que vous accordez, vous donnez à ces...
À 1000%. Là, juste pour vous dire, nous avons un mouvement de centre d'entrepreneuriat social en Algérie, en Tunisie, un mouvement qui commence en Libye, en Mauritanie, ça c'est juste pour parler du Maghreb. Et donc ce mouvement, il est en plein essor parce qu'il y a une vraie demande sur cette logique de renverser la pyramide, ou de commencer vraiment par les besoins de la société et se diriger vers le futur. Et ça, alors, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, c'était difficile, parce que les gouvernements, ils n'aimaient pas ça. Maintenant, la donne est inversée. Sollicite encore plus qu'avant.
Martin Péricard, votre regard sur cette expérience donc d'incubateur, un M-size d'Adnan Adioui au Maroc?
Bah écoutez, ça renvoie à l'économie, mais aussi au chômage, parce que on est dans des pays où les populations sont très jeunes, hein, 40% de la population en moins de 30 ans, et ce sont des jeunes qui se retrouvent qualifiés et sans emploi. On parlait de crise migratoire en début d'émission. On sait, bah, par exemple, en Tunisie, que de nombreuses personnes se retrouvent à essayer de traverser la Méditerranée, et que cette Méditerranée, malheureusement, est un cimetière. Donc pour le chômage et pour l'économie, on pourrait citer au Maroc aussi la MAP qui travaille sur les populations les plus fragiles pour essayer de les accompagner vers l'emploi. On pourrait aussi citer Migration et Développement qui travaille dans l'Atlas et l'Anti-Atlas au plus près des populations sur des activités économiques en agriculture. Je me souviens de son directeur qui me disait, bah, vous voyez, on se pose la question de comment faire pour que ces populations qui sont pauvres puissent accéder finalement à un revenu économique. Et il me disait, bah, pour travailler avec ces pauvres, il faut être au plus près de ces populations.
On peut investir le social pour en faire une activité économique rentable, Martin Péricard ?
Tout à fait, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire, et ce sont un petit peu des organisations hybrides où finalement on emploie les méthodes de l'entreprise avec un but social et avec l'idée qu'on n'est pas dépendant des subsides de l'État.
Et ce modèle hybride, c'est ce que vous avez découvert en fait en enquêtant au Maghreb. C'est ça peut-être l'un des changements de ces dernières années au Maghreb, ce développement d'un modèle hybride à cheval entre l'entreprise et le modèle associatif classique?
Absolument. C'est une nouvelle forme de société civile qui émerge avec une volonté de ne pas être assistée par l'État. Aussi une forme d'indépendance, parce que c'est vrai que les associations, les syndicats, les coopératives sont souvent des initiatives de la société civile qui sont historiquement proches des gouvernements et de l'État. Là, on est vraiment sur une forme d'indépendance des initiatives des ONG.
Adnan Adioui, comment vous réagissez à ce que vient de dire Martin Péricard, ne pas être assisté par l'État? Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un de vos leitmotivs?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention, mais juste un point de clarification, c'est que il y a une différence entre les concepts d'entrepreneuriat social, d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire. C'est que dans le sens où vraiment cette question de rupture est vraiment poussée par une logique d'innovation et de création de nouvelles formes. Alors bien sûr, c'est des termes qui peuvent être des fois interchangeables, mais c'est important de savoir que le volet innovation sociale, c'est-à-dire comment apporter de nouvelles solutions aux besoins des gens, ben, en fait, ça va aussi avec la rupture des relations qu'on peut avoir entre gouvernements gouvernants gouvernés, entre collectivités et élus, et en même temps entre relations entre citoyens et société civile. Et ça, c'est des tendances qui, maintenant, avec le Covid, en fait, elles s'accélèrent encore plus, parce qu'il y a toute une vision qui dit, en fait, que pas tous les anciens modèles sont toujours opérationnels. Et donc, le besoin de se réinventer, d'être plus résilient, parce que le concept d'antifragilité et résilience deviennent maintenant des données qui sont totalement fondamentales pour préparer le futur.
Martin Béricard, dans votre livre, vous faites aussi le constat d'une maturité grandissante de la société civile. Dans quel sens ?
Maturité, parce que, par exemple, on s'aperçoit que, si on prend l'Algérie, sur la thématique de la jeunesse, 130 associations se réunissent ensemble pour voir comment elles peuvent faire pour porter des initiatives sur cette jeunesse. C'est un programme qui s'appelle Joussour, qui est soutenu. Joussour, ça veut dire le pont entre la société civile française et la société civile algérienne. C'est un programme financé par le gouvernement français et ça permet à 130 associations de se retrouver, ce qui n'était pas toujours le cas avant, puisqu'il y avait les associations proches du gouvernement et les associations qui étaient plutôt dans l'opposition. Là, tout le monde se mobilise sur la même thématique et avec les mêmes objectifs.
Adnan Adioui, vous faites le même constat d'une maturité grandissante de la société civile, et je pense à la société civile au Maroc, où vous habitez.
Alors, c'est pas juste une question de maturité, mais c'est une question de remise en cause et d'ouverture accélérée. Je donnerai juste l'exemple du système de santé. Avant le Covid, les citoyens et la société civile, quand ils parlaient de la santé en général, c'était les hôpitaux ou encore les médecins. Maintenant, les gens commencent à savoir, quand on parle de système de santé, en fait, ça inclut même la personne qui est chez elle, la personne qui fait les courses, l'épicier. Et donc, c'est une forme de nouvelle perspective qui s'en va aussi, des fois, avec une nouvelle forme de prise de responsabilité et de donner des comptes. Alors, maturité, et je pense que c'est un peu dangereux, parce que ça voudrait dire que les gens n'étaient pas matures. Et c'est un peu dangereux, parce que dans un contexte, ça peut être pris dans une logique condescendante et des fois qui peut avoir un impact négatif sur en fait la relation des gens entre eux-mêmes.
Martin Béricard, vous écrivez dans votre livre « Les faces cachées des sociétés civiles au Maghreb » que la relation à l'État de la société civile marocaine n'est pas aussi étanche et claire qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors c'est un sujet sensible, mais c'est vrai que l'État marocain est un État où le pouvoir de la royauté est important, et il faut que cette société puisse trouver des modalités, des articulations avec ce pouvoir pour pouvoir exister. Et c'est le cas. Il y a une longue tradition démocratique au Maroc qui fait que, malgré les tensions, il y a des associations comme l'AMAP, j'en ai parlé, mais aussi d'autres associations qui ont permis de coordonner le travail associatif et de dialoguer avec le gouvernement. Mais ça reste quand même tendu et dans une relation qui reste à inventer.
Adnan Adioui, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Martin Béricard. Est-ce que pour vous, il y a toujours quand même une opposition entre force du changement et force conservatrice ? Et est-ce que cette division se retrouve au sein de la société civile et du monde associatif ?
Oui, je dirais de manière globale, les manières de réfléchir des fois ne sont pas comprises. Quand même la dialectique entre progressiste slash ou versus conformiste ou conservateur, des fois les termes peuvent être aussi dangereux. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est que il y a un consensus sur les éléments de base, c'est-à-dire qu'en fait, il faut réduire les inégalités, il faut réduire le chômage, lutter contre la honte, la corruption. Alors ces éléments-là, toutes les parties des différentes sociétés, ils sont d'accord. Par contre, là où on peut différer, c'est comment y répondre. Et donc ici, moi, je vous dis que j'ai ma expérience personnelle, au début, je les ai considérés comme un hippie, dans le sens où c'est des choses qui n'existent pas, et il y a beaucoup de résistance de chez des autorités particulièrement, parce que c'est une logique conservatrice qui est, je dirais, qui n'est pas ouverte à l'innovation. Et ce n'est pas forcément conservatrice dans la logique religieuse, parce que beaucoup de gens aussi font la confusion. Alors ce qui est vraiment important, c'est quand les règles de jeu ne sont pas très claires et qu'il y a beaucoup de zones grises, dans une loi napoléonienne, en fait, parce qu'il n'est pas autorisé.
Brièvement, Anne.
Oui.
Oui, est-ce que vous pouvez juste conclure, parce que le temps presse.
Oui, très bien, voilà, c'est bon. Donc oui, donc pour résumer, alors le versus, des fois, est dans les zones grises qu'il faudrait réduire.
Merci beaucoup Adnan Adioui, cofondateur du MSize, le Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social à Rabat. En deux mots vraiment, Martin Péricard, votre livre est un livre d'espoir sur cette face cachée des sociétés civiles au Maghreb.
Bah, tout à fait, parce que nous pensons que les sociétés civiles sont porteuses de changements et sont porteuses d'initiatives. D'ailleurs, avec l'Université d'Aix-Marseille, on a créé une chaire sur la Méditerranée et les transitions parce qu'on pense que ces sociétés civiles permettent le changement.
Merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « La face cachée des sociétés civiles au Maghreb » aux éditions de l'Aube. Livre préfacé par Tahar Benjelloun et Benjamin Stora.
Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, s'il faut, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix? La voix de ces familles. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe. Emmenez-moi là-bas.
King sur RFI, Liberté devenue en 2019 l'hymne du Hirak algérien. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Juliette Brault, Delphine de Dianous et Romain Dubrac. Vous pouvez retrouver cette émission sur RFI.fr, l'appli RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de téléchargement. Demain à ce micro, Emmanuel Bastide pour le portrait d'un proviseur pas comme les autres. Dans quelques secondes, le retour de l'info.